Ovide, les Métamorphoses, livre 14e. Déjà Glaucus a laissé derrière lui l'Etna, sous lequel gémissent les géants et la terre des cyclopes, qui ne doit rien ni à la herse, ni au soc de la charrue, ni au travail patient des bœufs. Il perd de vue les murs opposés de Zancle et de Régium, et ce détroit, fertile en naufrage, resserré entre les confins de la Sicile et de l'Italie. D'une main puissante, il fend les flots de la mer tyrrhénienne, et bientôt il arrive sur les collines aux herbes magiques, et dans le palais aux cent monstres divers de Circé. À peine l'a-t-il aperçu, à peine lui a-t-il donné le salut qu'elle lui rend. « Déesse, prends pitié d'un dieu, je t'en conjure, lui dit-il. Toi seule, si je t'en parais digne, peux adoucir les peines de mon amour. Car je connais toute la puissance des plantes, moi dont elles ont changé la nature. Apprends la cause du mal qui me possède. » Sur le rivage d'Italie, en face de Messine, j'ai vu Scylla. J'aurais honte de redire mes promesses, mes prières, mes flatteries caressantes, mes paroles d'amour. Elle a tout méprisé. Ô toi, s'il est quelque vertu dans les paroles magiques, que ta bouche sacrée les prononce. Ou si le charme des plantes a plus de force, prends celle dont tu as éprouvé déjà l'effet tout-puissant. Ne me guéris pas. Laisse-moi ma blessure, n'éteins pas le feu qui me dévore, mais que Scylla, du moins, le partage. Circé lui répond, « Et jamais femme n'eut pour l'amour une âme plus vive et plus ardente, soit par un fougueux instinct, soit par la colère de Vénus, dont le soleil, son père, avait révélé la honte. » Tu ferais mieux de suivre celle qui se laisserait aimer, éprise des mêmes désirs et de la même passion. Tu étais digne d'un tel amour et tu méritais qu'on te l'offrît, sans le demander toi-même. Mais, crois-moi, laisse espérer et quelqu'un te l'offrira. En douterais-tu? Ne crois-tu pas la puissance de ta beauté? Eh bien, moi, déesse et fille du soleil, moi dont tout le monde redoute et les paroles et les poisons magiques, je voudrais être à toi. Méprise celle qui te méprise, aime celle qui t'aime et, du même coup, venge-nous toutes les deux. Non, répondit Glaucus. On verra plutôt les forêts verdir dans la mer et les algues marines pousser sur les montagnes, que mon amour changé. Tant que durera la vie de Scylla. » La déesse s'indigne. Elle ne peut, et elle ne voudrait pas d'ailleurs, se venger sur le dieu qu'elle aime. Mais toute sa colère se tourne contre celle qu'on lui préfère. Furieuse de cet affront, elle broie d'horribles plantes et mêle à leur poison des paroles infernales. Puis, enveloppée de ses voiles d'azur, elle sort de son palais à travers les monstres qui la flattent sur son passage et elle s'élance vers Régium. Elle marche sur les flots comme sur le terrain solide du rivage et ses pieds effleurent sans se mouiller le dos écumant des vagues. Il y avait une anse étroite aux contours sinueux où Scylla aimait à venir goûter le repos et la fraîcheur à l'abri d'une mer agitée et d'un ciel en feu, lorsque le soleil, au plus haut de sa course, avait ramené l'ombre au pied des chênes. C'est là que Circé verse, avec ses poisons, d'horribles germes. Le suc de ses herbes vénéneuses souille et corrompt les eaux. Et les lèvres de l'enchanteresse murmurent neuf fois des mots étranges et ténébreux. Scylla vient ensuite, et à peine est-elle à moitié descendue dans l'onde, qu'elle se voit avec horreur entourée de monstres aboyants. D'abord, elle ne sait pas qu'ils font partie de son corps. Elle veut fuir, elle les repousse, elle craint leurs dents hideuses. Mais en fuyant, elle les traîne avec elle. Ses cuisses, ses jambes, ses pieds ont disparu. Elle les cherche et ne trouve à leur place que des gueules béantes, que des chiens hurlants au corps difforme, et qui la pressent dans une affreuse ceinture. Glaucus versa des larmes et fuit avec horreur les caresses de Circé, dont les poisons avaient trop odieusement servi la haine. Scylla resta dans ce lieu, et bientôt elle put se venger de Circé en dévorant les compagnons d'Ulysse. Elle allait aussi submerger les vaisseaux troyens lorsqu'elle fut changée en un rocher qui se dresse encore aujourd'hui sur les eaux et que les matelots évitent avec effroi. Les Troyens avaient, à force de rames, échappé à Scylla et à la ville de Charybde. Déjà, ils apercevaient les côtes de l'Ausonie lorsqu'un vent furieux les repousse sur le rivage africain. Là, Didon accueille Énée dans son palais. Mais elle accueille aussi dans son âme l'amour du héros dont elle ne devait pas supporter l'abandon. Couchée sur un bûcher qu'elle a fait élever sous le prétexte d'offrir un sacrifice, elle meurt de sa main, et trompée par Énée, elle trompe tous ceux qui l'entourent. Énée fuit les murs naissants de Carthage et les sables de la Libye. Les vents le portent auprès du mont Eryx, où il retrouve Alceste, son ami. Il offre un sacrifice sur le tombeau de son père et remet à la voile, sur les vaisseaux encore noircis par les flammes de l'incendie, qu'Iris avait allumé pour obéir à Junon. Il laisse derrière lui le royaume d'Éole, les terres de Vulcain, d'où s'exhalent les vapeurs empestées du soufre et les rochers perfides des sirènes. Privé de son pilote, Palinure, il côtoie les îles d'Inarim et de Prokyte, les rochers stériles de Pithécuse, dont le nom rappelle celui de ses habitants. Jadis, le souterrain des dieux, irrité de la mauvaise foi et des parjures des Cercopes, voulut punir les crimes de cette race perfide et les changer tous en animaux difformes, à la fois semblables à l'homme et différents de lui. Il contracta leurs membres, aplatit leur nez, sillonna leur visage de rides et couvrit leur corps d'un poil fauve. Puis il les relégua dans cette île en leur ôtant l'usage de la parole dont ils ne s'étaient servis que pour le parjure. Il ne leur laissa, pour se plaindre, qu'un cri rauque. Énée laisse à sa droite les murs de Parthénope, à sa gauche la tombe de Misène à la trompette éclatante, et va descendre sur les bords marécageux de Cumès. Il pénètre dans l'antre de l'antique Sibylle et la prie de le conduire vers l'Averne, auprès des mânes de son père. Elle reste longtemps immobile, les yeux fixés sur la terre. Enfin, elle les relève et pleine du dieu qui l'inspire. « Tu demandes beaucoup, » dit-elle, « héros dont on a vu briller le courage au milieu des épées et la piété au milieu des flammes. Mais ne crains rien, tes désirs seront remplis. Tu verras avec moi les demeures de l'Élysée, les derniers royaumes du monde et l'ombre chérie de ton père. Il n'est pas de chemins inaccessibles à la vertu. » Elle montre à Énée le rameau d'or qui brillait dans la forêt de Proserpine et lui ordonne de l'arracher. Il obéit, et il vit les richesses du formidable Pluton, les mânes de ses aïeux et l'ombre du magnanime Anchise. Il connut les lois des enfers et quel danger, quelle guerre nouvelle il avait encore à soutenir. Il revient sur ses pas, toujours conduit par la Sibylle, et il le trompe en s'entretenant avec elle l'ennui et les fatigues du chemin. Pendant qu'il suivait une route effrayante à travers un sombre crépuscule, Énée dit à la Sibylle : « Que tu sois une déesse ou seulement une mortelle chérie des dieux, tu seras toujours pour moi comme une divinité bienfaisante. Et je reconnaîtrai combien je dois à celle qui m'a fait voir les royaumes de la mort, qui m'en a fait sortir après les avoir vus. Quand je serai revenu sur la terre, je t'élèverai un temple et je brûlerai l'encens sur tes autels. » Elle se retourne et lui répond avec un long soupir. « Je ne suis pas une déesse, et l'encens ne doit pas brûler en l'honneur d'une mortelle. Apprends qui je suis. J'aurais eu le don d'une jeunesse éternelle et sans fin si j'avais voulu céder au désir de Phébus. Il m'aimait, et dans sa passion, il espérait me séduire par des présents. « Vierge de Cume, me dit-il un jour, forme un vœu, et ton vœu sera rempli. » Je pris une poignée de poussière, et je souhaitais follement autant d'années de vie que j'avais de grains de poussière dans la main. J'oubliais de souhaiter aussi des années toujours jeunes. Le Dieu me les aurait données. Il m'offrait cette jeunesse toujours renaissante si je voulais me livrer à lui. J'ai méprisé les dons de Phébus et je suis restée vierge. Mais l'âge heureux a fui rapide. Elle est venue de son pas tremblant, la triste vieillesse que je dois si longtemps subir. Déjà j'ai vécu 7 longs siècles et pour épuiser le nombre des grains de sable, il me reste encore 300 moissons, 300 vendanges à voir mûrir. Viendra le temps où cette vie prolongée aura miné mon corps, où mes membres, lentement usés par la vieillesse, seront réduits à un atome insaisissable. Alors, qui pourra voir en moi la femme autrefois désirée et désirée par un dieu? Phébus, lui aussi peut-être, ne me reconnaîtra plus ou n'ira m'avoir aimée, tant je serai différente de moi-même. Invisible à tous, je n'aurai plus que la voix. C'est tout ce que les destins doivent me laisser. » Ainsi parlait la Sibylle, et les deux voyageurs continuaient à gravir la route souterraine. Aîné sortit du royaume des ombres, non loin de Cumès, fondé par une colonie de Béens, et après avoir sacrifié, suivant les rites, il vient aborder au rivage qui ne portait pas encore le nom de sa nourrice. Là s'était arrêté, après de longs et pénibles voyages, Macarée, un des malheureux compagnons d'Ulysse. Il reconnaît parmi les Troyens Achéménide, naguère abandonné au milieu des rochers de l'Etna, et tout surpris de le voir encore vivant. « Quel heureux hasard, ou quel dieu t'a conservé ?» lui dit-il. Comment un Grec se trouve-t-il sur le vaisseau d'un Troyen? Quelle terre ce vaisseau va-t-il chercher? C'était bien Achéménide auquel il parlait, et non plus cette figure hideuse qui était apparue aux Troyens sous des vêtements en lambeaux et rattachée avec des épines. Que je revoie Polyphème et ses dents dégoûtantes de sang humain, dit-il à Macarée, si le toit de ma famille et Ithaque me sont plus chers que ce vaisseau, si j'honore aîné moins qu'un père. Rien ne pourra m'acquitter jamais envers lui. Si je parle, si je respire, si je vois le ciel et la lumière du jour, c'est à lui, je ne saurais l'oublier, que je le dois. Grâce à lui, je ne suis pas tombée sous la dent du cyclope. Et maintenant, si je meurs, mon corps reposera dans la terre, ou du moins, il n'aura pas pour tombeau le ventre de Polyphème. Que devins-je au moment terrible où je me vis abandonné, et vous déjà loin du rivage? La terreur m'avait ravi l'usage de mes sens, j'étais anéanti. Ma bouche s'ouvrit pour crier, mais l'ennemi était là, je tremblais de me trahir. Les cris insultants d'Ulysse faillirent vous perdre. Je vis le cyclope arracher le sommet d'une montagne et jeter au milieu de la mer cette masse effroyable. Je le vis encore de ses bras gigantesques, lancer avec la force d'une machine d'énormes quartiers de rocs. À la vue des rochers, des vagues dont le poids menaçait de vous submerger, je pâlissais d'effroi, comme si j'avais été sur le vaisseau. Dès que la fuite vous a sauvé d'une mort affreuse, le géant va et revient en rugissant sur l'Etna. Aveugle, il étend devant lui ses larges mains pour éviter les forêts. Il se heurte contre les rochers. Il tourne vers la mer ses bras souillés de sang et pousse d'horribles imprécations contre les Grecs. « Oh ! S'écrie-t-il, si jamais le hasard ramenait sous ma main Ulysse ou quelqu'un de ses compagnons sur qui je puisse assouvir toute ma rage, je lui mangerai les entrailles, je le mettrai en pièces tout vivant, je boirai son sang avec délices, je ferai crier ses membres broyés sous mes dents, que je me consolerai facilement de la perte de mon œil. » J'écoutais les furieuses menaces du cyclope, je regardais glacé d'épouvante son visage encore rouge de meurtre, ses mains terribles, ses vastes membres, son orbite saignant, sa barbe mêlée de sang humain. J'avais la mort sous mes yeux, mais c'était la moindre de mes terreurs, et déjà je me sentais saisi par la main du géant, je sentais mes entrailles dévorées et englouties dans les siennes, je ne pouvais chasser l'horrible image des jours où je l'avais vu briser contre la terre mes malheureux compagnons, et lui-même, accroupi sur leurs cadavres comme un lion sur sa proie, dévorer avidement les entrailles, les chairs, les os avec leurs moelles et les membres palpitants. Tout mon corps tremblait. Je n'avais plus une goutte de sang dans les veines. Je le voyais encore mâcher ses mets hideux et revomir des morceaux saignants parmi des flots de vin. Je me figurais victime d'un si affreux destin. Je restais longtemps caché, tremblant au moindre bruit, craignant la mort et la désirant tout ensemble, trompant la faim avec des glands, des feuilles et de l'herbe, seul, sans secours, sans espoir et comme dévoué à la vengeance du cyclope. Enfin, après de longues souffrances, j'aperçus ce vaisseau. Je courus au rivage, j'implorai du geste un asile, et l'on eut pitié de moi. Un Grec fut recueilli sur un vaisseau des Troyens. Mais toi aussi, cher compagnon, conte-moi tes aventures, celles d'Ulysse et de tous ceux dont tu as partagé les périls. » Macarée lui parle d'abord d'Éole, qui règne sur la mer profonde d'Étrurie, et qui retient dans des cavernes les vents furieux. Éole les avait enfermés dans une outre pour les donner au roi d'Ithaque. Et grâce à cet étrange présent, Ulysse, après 9 jours d'une heureuse navigation, découvrait déjà son île tant désirée. Mais le 10e jour, ses compagnons, jaloux de leur chef et avides de partager ses trésors qu'ils croyaient cachés dans cette outre, avaient ouvert au vent leur prison. Et le vaisseau, entraîné par eux sur les mers qu'ils venaient de traverser, était retenu sur les côtes du royaume d'Éole. De là, dit Macarée, nous arrivons à la ville antique du Lestrigon Lamus, où régnait alors Antiphates. Ulysse me députe vers lui avec 2 autres, mais à peine l'un de mes compagnons et moi trouvons-nous notre salut dans la fuite. Le 3e est dévoré par le roi féroce des Lestrigons. Antiphates nous poursuit, et à ses cris, une foule immense accourt sur le rivage. Ils nous accablent de rochers et de troncs d'arbres, hommes et vaisseaux sont engloutis. Un seul navire échappe, et c'est celui que je montais avec Ulysse. La plupart de nos compagnons avaient péri. Nous fuyons en déplorant leur sort, et nous venons aborder à cette île que vous voyez de loin, et c'est de loin qu'il faut la voir. Crois-moi, fils de Vénus, toi le plus juste des Troyens, car à mes yeux, la guerre terminée, tu n'es plus un ennemi. Crois-moi, fuis les rivages de Circé. Nous aussi, après avoir attaché nos vaisseaux sur la côte, poursuivis par le cruel souvenir d'Antiphates et de Polyphème, nous refusions de pénétrer dans l'île et de visiter un palais inconnu. Il fallut tirer au sort, et le sort me choisit avec politesse Eurylochue, le buveur Elpénor et 18 autres pour nous rendre auprès de Circé. À peine avons-nous franchi le seuil, nous nous arrêtons, saisis de frayeur à la vue d'une multitude d'ours, de loups et de lions qui accouraient à nous. Mais aucun d'eux n'était à craindre. Bien loin de nous montrer les griffes et les dents, ils remuent doucement la queue, et ils nous suivent avec 1000 caresses. Des femmes nous reçoivent, et à travers d'immenses galeries de marbre, nous conduisent auprès de leur maîtresse. Elle était assise dans une salle magnifique, sur un trône élevé, vêtue d'une robe éblouissante, avec un manteau d'un tissu d'or sur ses épaules. Autour d'elle, une foule de nymphes et de néréides. Mais leurs mains ne sont pas occupées au travail de la laine. Elles disposent les herbes, elles séparent les fleurs éparses devant elles, les plantes de diverses couleurs et les placent avec soin dans des corbeilles. Circé dirige leurs travaux. Elle connaît l'usage de chaque feuille, les lois et les vertus de leur mélange. C'est elle-même qui choisit et qui pèse les plantes qu'elle doit employer. Dès qu'elle nous aperçoit, son visage prend un air riant et ouvert. Elle nous rend tous nos souhaits de joie et de bonheur. À l'instant, elle fait préparer un mélange d'orge grillée, de miel, de vin et de lait caillé. Mais la douceur de ce breuvage déguisait les sucs perfides qu'elle y avait furtivement répandus. Elle-même nous présente les coupes de ses mains divines. Dévorés d'une soif ardente, nous les vidons d'un seul trait. Mais à peine avons-nous bu, à peine la cruelle déesse nous a-t-elle touché les cheveux de sa baguette, je ne puis le raconter sans honte, mon corps se hérisse de soie. Je veux parler, et je ne fais entendre qu'un rauque murmure. Mon front se baisse vers la terre, ma bouche s'allonge et se recourbe sous une peau épaisse, mon corps se gonfle et se charge de chair, les mains qui venaient de saisir la coupe me servent pour marcher. Nous subissons tous les mêmes et terribles effets du breuvage, et Circé nous renferme dans une étable. Eurylochue seul ne prend pas la forme d'un porc. Seul il s'était défié de la coupe qu'on lui offrait. Heureuse défiance. Sans lui, je ferais encore partie d'un immonde troupeau. Sans lui, Ulysse n'aurait pas été prévenu de notre étrange malheur et ne serait pas venu nous délivrer. Le dieu qui porte le caducé lui donne la fleur au blanc calice et à la noire racine que les dieux ont appelée Molly. Cette fleur à la main, et munie des avertissements célestes, il entre hardiment dans la demeure de Circé. C'est en vain qu'elle l'invite à goûter la liqueur perfide et qu'elle cherche à lui effleurer les cheveux de sa baguette. Ulysse la repousse, la menace de son épée, et la déesse, tremblante, lui tend la main en signe de paix et d'amitié. Bientôt, admis à partager sa couche, il obtient d'elle, pour gage de leur union, notre délivrance. Circé répand sur nous les sucs d'une herbe bienfaisante, nous frappe à la tête de l'autre extrémité de sa baguette, et par des conjurations nouvelles, détruit l'effet des premières. À mesure qu'elle parle, notre corps se soulève de terre et se redresse, les soies qui se trouvaient tombent, nos pieds quittent leur forme ignoble, nos épaules renaissent, nous retrouvons nos coudes et nos bras. Ulysse nous embrasse en pleurant, nous pleurons avec lui, nous le tenons longtemps serré sur nos cœurs, et nos premières paroles ne sont que l'expression de notre reconnaissance. Nous sommes restés un an dans l'île de Circé, et pendant ce long séjour, j'ai vu, j'ai appris bien des choses merveilleuses. Celle-ci, entre autres, que m'a conté en secret l'une des quatre femmes que Circé emploie à ses affreux mystères. Un jour, pendant que la déesse était restée seule auprès d'Ulysse, cette nymphe me fit voir, dans un lieu consacré, la statue en marbre blanc d'un jeune homme dont la tête, ornée de couronnes nombreuses, était surmontée d'un pivert. Curieux de savoir quelle était cette statue, pourquoi elle était adorée dans un temple et pourquoi ce pivert était sur sa tête, je le demandai à ma compagne. « Écoute, Macaré, me dit-elle, et tu sauras combien est redoutable la puissance de ma maîtresse. Prête-moi ton attention. » Picus, fils de Saturne, régnait dans l'Ausonie. Il avait la passion de dresser pour la guerre de vaillants coursiers. Cette statue est la sienne. Tu peux voir dans cette image de marbre combien il était beau. Et son âme était aussi belle que sa figure. Il n'avait pu voir encore quatre fois les jeux que la Grèce célèbre tous les 5 ans dans l'Élide. Et les dryades, démons du Latium, avaient pourtant tourné les yeux vers lui. Les nymphes des fontaines, les naïades de l'Albula, du Numicus, de l'Agneau, de l'Alme, sitôt bornée dans son cours, du Nard impétueux, du Farfarus aux frais ombrages, les divinités qui habitent la forêt sacrée de la Diane scythique et les lacs d'alentour, toutes l'aimaient. Mais une seule nymphe eut son amour. C'était la fille de Janus au double visage et de Génilia qui lui avait donné la vie sur le mont Palatin. À peine sortie de l'adolescence, elle choisit parmi tous ses amants Picus pour son époux. Son admirable beauté était encore moins admirable que sa voix, et ses chants lui avaient fait donner le nom de Canante. Ils animaient les bois et les rochers, apprivoisaient les animaux féroces, suspendaient le cours des grands fleuves et fixaient le vol errant des oiseaux. Un jour, pendant qu'elle se plaisait à faire entendre sa voix mélodieuse, Picus était sorti du palais pour aller chasser le sanglier dans les campagnes de l'Orente. Il pressait les flancs d'un coursier plein de feu. Deux javelots brillaient dans sa main gauche et une agrafe d'or tenait relevé les plis de sa chlamyde de pourpre. Le même jour, la fille du soleil avait aussi quitté son île pour venir dans les mêmes forêts, sur les fertiles collines des Laurentins, cueillir de nouvelles plantes. Cachée dans le taillis, elle aperçoit Picus. Immobile de surprise, elle laisse échapper les fleurs qu'elle avait cueillies. Un feu subit court dans ses veines, et à peine remise de cette première émotion, elle veut lui parler, lui avouer tous ses désirs. Mais le cheval du jeune roi l'emportait rapidement au milieu des tourbillons de chasseurs. « Tu ne m'échapperas pas, s'écrie-t-elle. Non, quand tu serais enlevé par les vents. Non, si je me connais bien, si toute la vertu des plantes n'est pas évanouie, si mes conjurations ne trompent pas mon attente. » Elle dit. Et l'ombre d'un sanglier, une image sans corps, vient passer sous les yeux de Picus et paraît s'enfoncer dans l'épaisseur du bois à travers un vigoureux taillis où les chevaux ne pouvaient pénétrer. À l'instant, le chasseur abusé saute à bas de son coursier fumant, s'élance après cette proie imaginaire et s'égare dans les profondeurs de la forêt. Circé murmure d'infernales prières. Elle conjure la puissance mystérieuse par ses mystérieuses paroles qui font pâlir la lune et voilent de sombres nuages la face du soleil. À ses accents terribles, une nuit profonde couvre le ciel. La terre exhale de noires vapeurs. Les compagnons du roi s'égarent dans les ténèbres et le laissent seul. La déesse saisit l'occasion et le moment. « Oh, par ces yeux brillants qui ont captivé mes yeux, » dit-elle à Picus, par cette adorable beauté qui me fait, moi, déesse, te supplier à genoux. Prends pitié de mes feux, reçois pour épouse la fille du soleil, de celui dont le regard embrasse l'univers. Laisse-toi toucher par mes prières, ne méprise pas l'amour de Circé. Mais Picus repousse avec fierté la déesse et ses vœux. Qui que tu sois, lui dit-il, je ne puis être à toi. Une autre me possède, et puisse-t-elle me posséder toujours? Non, jamais, tant que les dieux me conserveront la fille de Janus, un autre amour ne viendra violer le serment qui nous unit. Circé prie et conjure de nouveau, mais en vain. Alors elle s'écrie avec fureur. Ton insolence ne restera pas impunie. Tu ne reverras plus qu'Anante. Tu sauras ce que peut une femme, une amante outragée. Surtout quand cette femme est Circé, qui t'aime et que tu outrages. Alors elle se tourne deux fois vers l'Orient, deux fois vers l'Occident. Elle touche trois fois Picus de sa baguette, et trois fois elle prononce sur lui des mots magiques. Il fuit, étonné lui-même de la vélocité de sa course. Mais il se voit des ailes. C'est un nouvel oiseau dans les forêts de Latium. Indigné, il frappe les arbres d'un bec aussi dur que l'acier. Il fait avec rage de profondes blessures à leurs branches. Son plumage a conservé la couleur de pourpre de la chlamyde, et le jaune éclatant de son agrafe d'or brille autour de son cou. Il ne reste plus rien de Picus que son nom. Cependant, ses compagnons l'appelaient à grands cris et ne le trouvaient nulle part. Ils aperçoivent Circé, car elle avait déjà éclairé les airs et permis au vent et au soleil de dissiper les nuages. Ils l'accusent du crime qu'elle a commis, lui redemandent leur roi, portent la main sur elle et la menacent de leurs javelots. Mais Circé répand sur la terre des sucs vénéneux. Elle invoque et la nuit et les dieux de la nuit, les rêves et le chaos. Elle conjure Hécate avec de longs hurlements. Ô prodige, les forêts bondissent, s'échangent de place. La terre gémit, les arbres voisins pâlissent, l'herbe se mouille d'une rosée sanglante. On entend les rochers pousser d'affreux mugissements, les chiens aboient, de hideux reptiles souillent la terre, et l'on voit voltiger çà et là les ombres des morts. Les soldats sont immobiles, muets d'horreur. Circé touche de sa fatale baguette tous ces visages épouvantés, et on ne voit plus à leur place qu'une foule d'animaux sauvages, pas un seul n'a conservé sa forme humaine. Le soleil couchant s'était abaissé sur les rivages de Tartès, et Canante avait en vain attendu Picus. Ses yeux avaient en vain épié le retour de son époux. Ses esclaves et le peuple parcourent les forêts à la lueur des flambeaux. Ce n'est pas assez pour la nymphe de gémir et de pleurer, de s'arracher les cheveux et de se meurtrir le sein. Elle s'échappe de la ville et court çà et là comme en démence dans les campagnes du Latium. 6 jours et 6 nuits, sans nourriture et sans sommeil, elle va au hasard par les montagnes et par les vallées. Le Tibre la vit la dernière, épuisée de fatigue et de douleur. Elle s'était laissée tomber sur sa rive et là, tout en pleurs, d'une voix triste et faible, elle murmurait un chant plaintif, comme le chant du cygne qui va mourir. Enfin, tout son corps, épuisé par les larmes, se dissout peu à peu et s'évanouit dans les airs. Le lieu témoin de sa mort étrange en a conservé le souvenir, et les muses de la vieille Italie, les Camènes, lui ont donné le nom de Canante. Voilà, dit Macaré en finissant, de ces prodiges dont j'ai vu ou entendu raconter tant d'exemples pendant le cours d'une année. Ce long repos nous avait amollis, et nous avions oublié et nos vaisseaux et la mer, quand Ulysse donna l'ordre de remettre à la voile. Mais Circé nous avait prédit de longues épreuves, de lointains voyages, de nouveaux écueils et de nouvelles tempêtes. Cet avenir m'effraya, je l'avoue, et je me suis attaché à ce rivage. Macaré avait terminé son récit. Aîné renferme dans une urne les cendres de sa nourrice et fait graver sur le tombeau ce peu de mots. Ici repose Gaïette. Ici, le héros pieux qu'elle avait nourri, après l'avoir sauvé des flammes de Troie, a brûlé son corps dans les flammes du bûcher qu'il lui devait. Les Troyens délient les câbles qui retenaient la flotte au rivage. Ils fuient les pièges et l'île trop fameuse de Circé. Ils viennent aborder non loin des bois sacrés qui ombragent le Tibre, à l'endroit où ses eaux, chargées d'un jaune limon, tombent dans la mer. Aîné devient l'hôte et le gendre de Latinus, fils de Faune. Mais ce n'est pas sans combat. La belliqueuse nation des Rutules lui déclare la guerre. Turnus lui dispute avec fureur celle qui avait dû être son épouse. L'Étrurie tout entière est aux prises avec le Latium. Et une lutte acharnée laisse longtemps la victoire indécise. Chaque partie cherche au dehors de nouvelles forces, et le camp des Rutules et celui des Troyens se remplissent d'alliés. Aîné n'est pas allé inutilement demander l'appui des Vendres. Mais Vénulus, le député du Rotule, revient sans avoir obtenu l'alliance de Diomède, qui, après avoir longtemps erré de rivage en rivage, avait fondé une puissante cité sur les terres que l'Apulien Donus lui avait donné avec sa fille. À la demande de secours que l'ambassadeur de Turnus lui avait faite, il avait opposé l'état de ses forces. Il ne voulait pas entraîner dans une guerre les peuples de Donus, et quant à ses propres soldats, il en restait trop peu pour former une armée. « Je n'invente pas mes excuses, dit-il à Vénulus, et pour te le prouver, malgré toute l'amertume de ses souvenirs, j'aurai le courage de te raconter mes malheurs. » Après la ruine de Troie, quand la flamme des Grecs eut dévoré Ilion, Ajax, fils d'Oïlée, dont le bras impie avait arraché Cassandre du temple de Minerve, attira sur nous tout le châtiment que lui seul avait mérité. La tempête nous disperse, l'ouragan nous emporte sur les vagues menaçantes, au milieu des ténèbres, des éclats du tonnerre, d'une pluie affreuse. Le ciel et la mer en fureur se déchaînent contre nous, et les écueils du promontoire de Caffaré achèvent notre désastre. Je ne te fatiguerai pas du triste et long récit de tous nos malheurs. Priam lui-même aurait peut-être plaint les Grecs. Pallas m'avait arraché au naufrage, mais je suis obligé de fuir une seconde fois Argos, ma patrie, et Vénus, que j'avais eu l'audace de blesser sous les murs de Troie, me poursuit de toute sa haine. Que de fois alors, sur les flots, au milieu de la tempête, sur la terre, au milieu des batailles, ai-je envié le sort de ceux que, dans un même orage, sur les écueils de Sapharé, la mer avait englouti tous ensemble. Que de fois ai-je regretté de n'avoir pas péri avec eux. Mes compagnons, après avoir connu toutes les misères, perdaient courage, et las des tempêtes et des combats, ils demandaient la fin de cette vie errante. Mais, dit Acmon, dont le caractère fougueux était aigri par le malheur, que reste-t-il, ami, après tant de souffrances que nous ne puissions supporter encore? Que pourra faire de plus toute la colère de Vénus si nous avions quelque chose de pire à redouter? Il y aurait sujet de former des vœux et des souhaits. Mais dans l'extrémité où nous sommes, on met la peur sous ses pieds. L'extrême malheur ne craint plus rien. Que Vénus m'entende si elle veut, qu'elle haïsse à son gré tous les compagnons de Diomède. Nous méprisons sa haine et toute sa puissance n'a sur nous que peu de prise. imprudente parole qui devait exciter la colère de Vénus et réveiller sa haine endormie. Quelques-uns y applaudissent, les autres, et c'est le plus grand nombre, font avec moi de vifs reproches à Acmon. Il veut répondre, mais son gosier se resserre et sa voix n'a plus de force. Ses cheveux se changent en plumes, des plumes couvrent son cou, sa poitrine et son dos. D'autres, plus grandes, s'attachent à ses bras et en forment deux ailes au doux contour. La peau des pieds envahit l'intervalle des doigts. Sa bouche devient dure comme la corne et se termine en pointe. Lucus, Idas, Nycté, Réténor, Abbas admirent ce prodige et pendant qu'ils l'admirent, ils prennent à leur tour la même figure et cent autres avec eux qui s'envolent et battent des ailes autour de mes vaisseaux. Ces oiseaux, si subitement créés, se rapprochent du cygne par la forme et par la blancheur du plumage. Pour moi, avec le peu de grès qui me restait, à peine ai-je pu parvenir sur ces bords où Daunus m'a cédé, avec la main de sa fille, une partie des terres arides de l'Apulie. Vénélus quitte les états de Diomède, les rivages du Peucétium et les campagnes de la Messapie, où il visite en passant un antre couronné d'un épais ombrage et dont les parois sont toujours humides d'une espèce de rosée. Pan, aux cornes et aux pieds de bouc, l'habite aujourd'hui. C'était jadis la retraite des nymphes. Un jour, surprises dans cette grotte par le berger Apulus, elles avaient fui par un premier mouvement de terreur. Bientôt remises de leur effroi, honteuses de fuir devant un pâtre, elles forment à ses yeux des danses légères où leurs pieds se meuvent en cadence. Mais Apulus se moque d'elles. Il contrefait par des sauts grotesques leurs mouvements gracieux. Il les poursuit de ça les grossières injures. Pour le faire taire, il faut que l'écorce d'un arbre vienne lui fermer la bouche. On peut reconnaître encore dans cet arbre la nature et les goûts d'Apulus. C'est l'olivier sauvage, aux baves amères comme ses paroles. Toute l'âpreté de sa langue a passé en elle. Les ambassadeurs de Turnus lui apporte le refus de Diomède. Mais les Rutules, privés de ce puissant auxiliaire, n'en poursuivent pas moins la guerre avec fureur. Le sang des deux parties coule par torrents. Turnus porte la flamme avide sur la flotte des Troyens. Le feu menace les vaisseaux que l'onde a épargnés. Déjà il dévorait le bitume, la cire, toutes les matières qui pouvaient le nourrir. Déjà la flamme courait le long des mâts, les voiles étaient en feu, les bancs des rameurs commençaient à fumer. Mais la mère vénérée des dieux, si belle, se souvient que les vaisseaux d'aînés sont construits avec des pins de l'Ida. Au bruit retentissant des cymbales, au son plus grave de la flûte de Phrygie, elle vole dans les airs sur son char attelé de lions. « C'est en vain, s'écrie-t-elle. C'est en vain, ô Turnus, que ta main sacrilège lance la flamme sur ces navires. Je les sauverai, je ne laisserai pas le feu dévorer les fils de mes forêts. » Elle dit, et le tonnerre gronde, les nuages versent des torrents de pluie mêlés de grêle, les vents déchaînés se heurtent, se combattent, et dans leur choc furieux bouleversent le ciel et les mers. L'un d'eux, lancé par la déesse, rompt les câbles qui liaient la flotte au rivage, renverse les vaisseaux et les abîme dans les flots. Le bois s'amollit et prend la forme d'un corps humain. Les poupes recourbées en deviennent la tête et le visage. Les antennes sont les bras, les rames des mains et des pieds qui fendent l'eau. Les flancs s'assouplissent, les carènes se changent en reins flexibles, les cordages en ondoyantes chevelures. Ce sont de nouvelles naïades avec la couleur azurée des vaisseaux. Elles se jouent au milieu des flots qu'elles redoutaient. Née sur le sommet des montagnes, elle peuple l'humide empire sans regretter leur ancienne patrie. Mais elles n'ont pas oublié leur long péril sur tant de mers. Plus d'une fois, au vaisseau battu par la tempête, elles ont prêté une main amie. Pour les Grecs seuls, elles sont sans pitié, le souvenir des malheurs de Troie et la haine des Grecs vivent dans leur cœur. Elles virent avec joie les débris du vaisseau d'Ulysse, et celui qui l'avait reçu d'Alcinoüs se durcir en rocher et se dresser sur les eaux comme un nouvel écueil. Les vaisseaux troyens, changés en nymphes, on pouvait espérer que la terreur de ce prodige ferait tomber les armes des mains des Rutules. Mais ils persistent. Chaque partie a ses dieux, et ce qui vaut les dieux, le bras et le courage de ses chefs. Déjà ce n'est plus pour toi, Lavinie, ni pour le sceptre et le royaume de ton père que combattent les deux rivaux. C'est pour vaincre, c'est pour n'avoir pas la honte de céder. Enfin Vénus voit triompher les armes de son fils. Turnus tombe, et Ardée, dont il faisait la force, tombe avec lui. Lorsque la flamme impitoyable l'a dévoré, et que ses toits ne sont plus qu'un morceau de cendre, des débris fumants, un oiseau jusqu'alors inconnu s'envole, en secouant la cendre de ses ailes, son cri plaintif, sa maigreur, son pâle plumage, tout en lui rappelle le désastre d'une file détruite. Il conserve le nom d'Ardée, et par le triste battement de ses ailes, il en déplore le malheur. Enfin, la vertu d'aînée avait désarmé la vieille colère de Junon elle-même. Après avoir affermi les fondements de l'empire d'Iule, il n'avait plus qu'à prendre sa place dans le ciel. Vénus lui avait gagné le suffrage des dieux. Elle entoure de ses bras caressant le cou de Jupiter. « Ô mon Dieu, lui dit-elle, tu n'as jamais été sévère et dur pour ta fille. Sois-lui encore plus doux aujourd'hui, je t'en conjure. Donne à Aînée, à mon fils, qui te connaît pour son aïeul, un rang parmi les dieux, fût-ce le dernier. Mais qu'il l'obtienne, ô mon père. » C'est assez pour lui d'avoir vu une fois le triste empire et les rivages du Styx. Tout l'Olympe applaudit à ces paroles, et Junon ne garda plus son visage froid et immobile. Elle sourit en donnant son aveu. Jupiter répond à Vénus. « Vous êtes dignes tous les deux de cette divine faveur, toi qui la demandes et celui pour qui elle est demandée. Reçois-la, ma fille, je te l'accorde. » Vénus, heureuse, lui rend grâce. Elle monte sur son char conduit par des colombes, fend les airs et descend sur la rive du Numicus dont les eaux couvertes de jonces traînent en serpentant jusqu'à la mer. Elle ordonne au fleuve d'ôter à Aînée tout ce qu'il y a de mortel et de faire disparaître cette dépouille sous ses eaux silencieuses. Le fleuve obéit. La partie périssable du héros est entraînée dans son cours. L'essence divine reste seule. La déesse répand sur le corps ainsi purifié une céleste odeur et sur les lèvres un mélange de nectar et d'ambroisie. Aînée devient un dieu que les Romains honorent sous le nom d'Indigète. Il a chez eux un temple et des autels. Après Aînée, Ascagne, qui fut aussi appelée Iule, réunit sous ses lois Albe et le Latium. Il eut pour successeur Silvius, dont le fils reçut le nom et le sceptre antique de Latinus, qu'il supportait avec gloire. Après lui, régnèrent Épithès, Capys, Capetus, Tibérinus. Ce dernier se noya dans les eaux de l'Albula et leur donna son nom. Il eut pour fils Rémulus et le fier Acrotas. Rémulus était l'aîné. Il voulut imiter la foudre et périt consumé par elle. Akrotas, plus sage que son frère, laissa le trône au vaillant Aventin. Celui-ci repose sur la montagne où il avait régné et qui porte encore aujourd'hui son nom. Après lui, Procas gouvernait les peuples qui sont autour du mont Palatin. Sous son règne vivait Pomone. Parmi les Hamadryades du Latium, aucune ne fut plus habile dans la culture des jardins. Aucune ne connut mieux celle des arbres fruitiers, de là son nom de Pomone. Elle n'aimait ni les forêts ni les fleuves, mais les champs et les arbres qui plient sous une heureuse abondance. Sa main n'est pas armée d'un javelot, mais d'une serpe légère, soit pour émonder les jets d'une pousse déréglée et réprimer un luxe inutile, soit pour fendre l'écorce où elle greffe le bourgeon étranger que le tronc nourrira de sa sève. Jamais ces arbres n'ont souffert de la soif. Elle amène à leurs pieds des ruisseaux qui abreuvent les fibres altérées de leurs racines. Ce sont là ses goûts, ses plaisirs. Elle ne songe pas à l'amour. Pour éviter la poursuite des dieux champêtres, elle ferme avec soin ses vergers. Elle prévient et fuit leur approche. Que n'ont pas essayé pour la vaincre et les satyres rebondissants et les faunes aux cornes couronnées de pin et Sylvain toujours jeune dans ses vieilles années et le dieu lascif dont la faux épouvante les voleurs. Vertumne, avec plus d'amour encore, n'était pas plus heureux. Oh, que de fois pour la voir sous l'habit d'un rude moissonneur, et il trompait alors tous les yeux, il avait porté dans une corbeille des épis de blé. Souvent la tête couronnée de foin nouveau, on le prenait pour un faneur qui venait de faucher l'herbe et de la retourner au soleil. Souvent, l'aiguillon à la main, on eût dit que son bras robuste venait d'ôter le joug au bœuf fatigué. Courbé sous une échelle, il paraissait aller cueillir ses fruits. Il se montrait tour à tour avec la serpe du vigneron, l'épée du soldat ou la ligne du pêcheur. Enfin, sous mille formes diverses, il goûtait le bonheur furtif de voir celle qu'il aimait. Un jour, la tête couverte d'une coiffe bigarrée, appuyée sur un bâton, les tempes entourées de cheveux gris, sous les traits d'une vieille femme, il pénètre dans les vergers de Pomone. Il en admire les fruits. « Que de richesses !» s'écrie-t-il. Et en louant la nymphe, il lui donne quelques baisers, comme jamais vieille femme n'en donna. Il s'assied, tout courbé sur un banc de gazon, et regarde les arbres que le poids des fruits mûrs inclinait vers la terre. Près de lui, un orme spacieux soutenait une vigne d'où pendaient de longues grappes. Il loue cette heureuse union. Si cet arbre, dit-il, était resté sans compagne, il n'aurait qu'un stérile feuillage à nous offrir. Si la vigne ne se mariait pas à l'orme qu'elle embrasse, on la verrait languir et ramper sur la terre. Et cependant, peut toucher de cet exemple, ô Pomone, tu fuis l'amour, tu ne veux pas t'unir à un époux. Ah, si tu le voulais! Jamais plus de prétendants n'auraient usé de prières auprès d'Hélène et de celle qui émeut la guerre des Lapites et de l'épouse d'Ulysse, si audacieuse contre les lâches. Et même en ce moment où tu repousses avec dédain tous les vœux, que d'amants autour de toi, des dieux et des demi-dieux et toutes les divinités des monts albins. Mais si tu es sage, si tu veux faire un heureux choix, écoute les conseils d'une vieille femme qui t'aime mieux que personne et plus que tu ne le penses. Rejette des hymens vulgaires et prends Vertumne pour époux. Je me fais garant de lui, il m'est aussi connu qu'il se connaît lui-même. Ce n'est point un de ces dieux inquiets qui courent le monde, ces lieux seuls ont su lui plaire. On ne le voit pas comme la foule des amants ne trouvait belle que la dernière femme qu'il a vue. Tu seras son premier et son dernier amour. seul tu rempliras son âme, à toi seul il a voué sa vie tout entière. Et puis, il est jeune, il est beau, il peut prendre à son gré toutes les formes. Commande, et tu peux tout commander, il le fera. Pourquoi le fuir? N'avez-vous pas tous les deux les mêmes goûts, les mêmes fruits que tu cultives? Il en a les prémices, et lui sont plus doux, offerts de ta main. Mais ce ne sont plus ni les fruits cueillis à tes arbres, ni les plantes mûries dans tes jardins qu'il désire. Il ne veut rien que toi. Aie pitié de son amour. Pense que c'est lui-même qui te supplie par ma bouche. Crains les dieux vengeurs, crains Vénus qui punit les cœurs insensibles et l'implacable colère de Némésis. Ne ris pas de ces menaces. Je suis vieille et mon âge m'a beaucoup appris. Je veux te conter une histoire connue dans toute la Chypre. Elle peut toucher ton âme et adoucir ta fierté. Iphis, d'une famille obscure, avait vu Anaxarète sortir du sang illustre de Teucère. Il l'avait vu, et tous les feux de l'amour le dévoraient. Après de longs combats, la raison impuissante dut céder à la violence de ses désirs. Il vient en suppliant au palais d'Anaxarète. Il avoue à la nourrice sa malheureuse passion. Il la conjure, au nom de celle dont elle est fière, de ne pas le rebuter. Il flatte les esclaves, il implore d'une voix tremblante leur appui, il confie à des tablettes ses doux aveux. Il suspend à la porte des couronnes de fleurs mouillées de ses larmes, il se couche sur le marbre glacé du seuil, il maudit l'obstacle qui le sépare de celle qu'il aime. Mais elle, plus sourde que les flots d'une mer orageuse, plus dure que le fer sorti des forges de Norique, et que la roche vive encore au sein de la carrière, elle le méprise, elle rit de son amour, et elle joint au refus de fières et dédaigneuses paroles. Elle lui défend même d'espérer. Iphis ne peut supporter longtemps cette affreuse torture, et devant la porte d'Anaxarète, il lui adresse ses dernières plaintes. « Tu l'emportes, Anaxarète. Enfin, tu ne seras plus importuné de moi. Triomphe, pousse des cris d'allégresse, ceint ton front de laurier. Je vais mourir. Allons, réjouis-toi, barbare. Tu seras du moins obligé de faire une fois mon éloge. Une fois j'aurais su te plaire et trouver un mérite à tes yeux. Mais souviens-toi que mon amour n'aura fini qu'avec ma vie et que je vais perdre en même temps cette double existence. Ce n'est pas la renommée qui viendra t'annoncer ma mort. Moi-même, je serai là pour t'en convaincre. Tu verras mon corps inanimé et cette vue réjouira tes yeux. Et vous, Dieu puissant, si vous jetez les yeux sur nous, pauvres mortels, souvenez-vous de moi. Ma voix n'a plus la force de prier, que le souvenir d'Iphis vive dans un long avenir. Accordez à sa mémoire ce que vous retranchez à sa vie. » Il dit, élevant ses yeux mouillés de larmes, ses bras amaigris par la douleur vers la porte, si souvent ornée par lui de guirlandes, il y attache un fatal cordon. « Voilà donc, s'écrie-t-il, voilà les liens qui te plaisent, cruels, impies. » Et la tête passée dans le nœud, le visage encore tourné vers elle, il s'élance. Le lien l'étrangle et le corps de l'infortuné reste suspendu. Heurté par le mouvement convulsif de ses pieds, la porte semble gémir et rend des sons plaintifs. Elle s'ouvre et laisse voir le cadavre. Les esclaves poussent un cri d'horreur et le détachent, mais il était trop tard. On le rapporte à la maison de sa mère, car son père était mort. Elle le reçoit dans son sein, elle entoure de ses bras ses membres glacés. Et après avoir dit tout ce que la douleur inspire à une mère désolée, Elle conduit par la ville en pleurant les funérailles de son fils. Elle porte son corps livide au bûcher. La fatale maison se trouvait par hasard sur la route du convoi. Le bruit des gémissements et des sanglots parvint aux oreilles d'Anaxarète. Déjà un dieu vengeur l'agite. Voyons, dit-elle malgré son trouble, voyons cette triste pompe. Elle monte au lieu le plus élevé de son palais et s'approche d'une fenêtre ouverte. Mais à peine a-t-elle aperçu le corps d'Iphis étendu sur le lit funèbre, ses yeux se fixent. Le sang abandonne ses veines, sa peau blanchit, elle veut fuir et ses pieds s'attachent au sol. Elle veut détourner la tête et son cou s'y refuse. La dureté de son cœur envahit peu à peu tous ses membres, elle n'est plus qu'une statue de marbre. Ce n'est pas une fable que ce récit, ô Pomone. Salamine conserve encore cette statue qui cache Anaxarète. Et l'on voit dans cette ville un temple consacré à Vénus qui regarde au loin. N'oublie pas cette histoire, ô ma fille. Dépose ta fierté, je t'en prie, et comble les vœux de ton amant. Alors, puissent les gelées du printemps ne pas brûler les fleurs de tes arbres, ni les vents rapides secouer leurs fruits mûrs. » Il dit, hélas de tous ses déguisements inutiles, il dépouille son attirail de vieille femme et redevient lui-même, jeune et beau. Il apparaît à Pomone comme l'image étincelante du soleil quand le déchire de ses rayons victorieux un voile de sombres nuages qui le couvrait. Il veut lui faire violence, mais la violence est inutile. La nymphe s'est éprise de la beauté du dieu et son cœur est blessé du même amour. À Procas succède Amulius, roi de l'Ausonie, par l'injustice et par la force. Mais le vieux Numitor, vengé par ses petits-fils, recouvre enfin son royaume. Le jour des fêtes de Pallès, Rome est fondée. Tatius et le sénat sabin portent la guerre sous les murs de la ville naissante. Tarpeia ouvre aux ennemis le chemin du Capitole et meurt écrasé sous le poids de leurs boucliers. Digne prix de sa trahison. Les sabins, comme des loups dévorants, s'approchent en silence pour égorger les Romains vaincus par le sommeil. Ils marchent aux portes que Romulus avait eu soin de fermer et de munir de solides barrières. Mais une d'elles est ouverte par la main de Junon elle-même, qui la fait tourner sans bruit sur ses gonds. Vénus seule s'est aperçue que le passage est libre, et elle irait le refermer s'il était permis à un dieu de détruire l'ouvrage d'un autre dieu. Auprès du temple de Janus, habitaient les naïades d'une source glacée. Vénus implore leur secours et les nymphes ne peuvent résister à la juste prière de la déesse. L'eau jaillit de toutes les veines de la source, mais ce n'est pas encore assez pour fermer le passage et rendre inaccessible le temple de Janus. Elle charge les eaux de soufre, elle verse un bitume enflammé dans les conduits souterrains. L'ardente vapeur pénètre jusqu'au fond des plus secrets canaux et l'onde, tout à l'heure aussi froide que la glace des Alpes, devient aussi chaude que le feu lui-même. Deux jets brûlants fument à la double entrée du temple et une barrière liquide défend la porte inutilement ouverte aux sabins. Cependant, les Romains courent aux armes et Romulus les conduit à l'ennemi. Quand la terre est jonchée de cadavres, quand les Romains et Sabins, gendres et beaux lièvres ont tourné leur saveur dans une lutte intime, la paix vient mettre fin au combat. Les deux parties renoncent à faire de l'épée leur dernière raison et Romulus partage l'empire avec Tatius. Tatius était mort et Romulus avait réuni sous une même loi les deux peuples. Mars dépose son casque et s'adresse en ces termes au souverain des dieux et des hommes. « Il est temps, ô mon père, puisque la puissance romaine est assise sur de solides fondements et que ses destins ne dépendent plus d'une seule tête, il est temps de tenir envers moi, envers mon fils, tes promesses, d'enlever Romulus à la terre et de le placer dans le ciel. Jadis, en présence de tous les dieux, tu m'as dit, et ces heureuses paroles sont restées gravées dans mon cœur, « Un de tes fils sera immortel, tu pourras l'enlever dans l'Olympe. Tu l'as dit, que ta parole s'accomplisse. » Jupiter fait un signe, et le ciel se couvre de noirs nuages, et la foudre, les éclairs font tremper Rome. À ce signe qui lui permet de ravir Romulus à la terre, Mars, la lance en main, monte fièrement sur son char ensanglanté, excite ses coursiers, franchit en un instant les plaines de l'air et descend sur la cime couronnée de forêts du mont Palatin. Au moment où Romulus rendait la justice à son peuple, il l'enlève. La dépouille mortelle du héros se dissout dans les airs comme la balle de plomb vigoureusement lancée par la fronde. Il prend une forme divine, plus digne des banquets célestes que la forme de Quirinus revêtue de la trabée. L'épouse de Romulus pleurait sa perte. Junon ordonne à Iris de descendre auprès d'Hercilie et de lui tenir ce discours. Ô toi, l'honneur et l'ornement des femmes romaines et des Sabines, digne d'avoir été l'épouse d'un héros, d'être aujourd'hui celle de Quirinus, cesse de pleurer. Et si tu veux voir ton époux, viens avec moi dans la forêt sacrée qui verdit sur le mont Quirinal et qui ombrage le temple du roi des Romains. Iris obéit. De son arc aux brillantes couleurs, elle se laisse glisser sur la terre. Elle adresse à Hercilie les paroles de Junon. Hercilie ose à peine lever les yeux sur la divine messagère. « Ô déesse, lui dit-elle, ton nom m'est inconnu. Mais je le sens, tu es une immortelle. Viens, ô viens, conduis-moi auprès de mon époux. Que les destins me donnent une seule fois le bonheur de le voir, et je n'envierai pas le bonheur des dieux. » Aussitôt, Hercilie est conduite par Iris sur le mont Quirinal. Là, une étoile détachée du ciel vient tomber sur la terre, sa lumière inonde les cheveux d'Hercilie, et l'épouse de Romulus disparaît avec l'astre. Le fondateur de Rome l'a reçue de nouveau dans ses bras. Elle perd à la fois et son enveloppe mortelle et son nom. On l'appelle Hora et on l'adore aujourd'hui dans le même temple que Quirinus. Fin du livre 14e.